Merci beaucoup de cet exposé très, très riche et très documenté qui insistait sur à la fois la complexité des mécanismes et puis surtout la diversité des situations selon les États. Peut-être pouvons-nous justement commencer par des points d'histoire. Il est en effet frappant de voir que les premières constitutions américaines, celles qui ont été adoptées dans les États après 1776, ont presque toutes été en moyenne beaucoup plus démocratiques que la Constitution fédérale adoptée en 1787. Les 13 États, surtout si on prend l'exemple de la Pennsylvanie ou l'exemple du Vermont, qui ont été comparés à la Virginie, qui ont été des constitutions là dans lesquelles, justement, des éléments qui ensuite même allaient être incorporés dans la réflexion révolutionnaire. Là, vous avez parler, c'est très intéressant, de la réception cachée de la Révolution française ensuite, eh bien, on peut dire qu'en France, il y a eu la réception cachée des constitutions américaines. Et quand on voit, par exemple, l'encyclopédie méthodique de Demenier, celle qui est consacrée aux questions politiques et diplomatiques, l'article sur les constitutions américaines fait plus de 100 pages de l'encyclopédie. Et très précise, et on sait que ça a été beaucoup lu pendant la période révolutionnaire. Alors, ma question est là, et il faut faire rentrer en ligne de compte qu'à l'époque, les États-Unis, où on vote les constitutions d'État, ont tout juste 2 millions d'habitants, ce qui fait que même les États assez peuplés ont moins de 60 000 électeurs. Donc, ce sont tout de même, d'un point de vue quantitatif, le fait que l'on puisse voter pour des amendements n'a pas le même sens quand il y a des millions et quand il y a quelques dizaines de milliers. Mais est-ce qu'au fond... on ne peut pas dire, et ça on va y revenir pour la période contemporaine, que les États-Unis n'ont cessé de marcher sur deux pieds différents, entre le niveau fédéral, où la Constitution a finalement très peu changé, puisqu'il y a eu un certain nombre de modifications, vous l'avez dit, mais les amendements sont peu nombreux, et l'article 5 de la Constitution rend dorénavant pratiquement impossible un changement de la Constitution. Alors qu'au contraire, il y a une espèce de vitalité permanente des constitutions d'État qui est très, très grande et qui se traduit notamment par le fait que ces constitutions grossissent de plus en plus. C'est comme la différence qu'il y a en France entre le Code civil, qui reste, je dirais, presque de dimension identique à celle du début du XIXe siècle, et le Code de commerce ou le Code du travail, où il y a une inflation constante. Cela veut bien dire qu'il y a une différence aussi entre les constitutions la Constitution fédérale et les constitutions d'État. C'est que la Constitution fédérale est vraiment une constitution de principes d'organisation des pouvoirs publics et d'établissement de grands principes de droit. Alors que les constitutions d'État, je suis frappé par ça, sont beaucoup plus composites, parce qu'elles sont presque à la limite des collections d'éléments de décision, presque. Ça n'est même pas toujours des textes qui ont une dimension normative forte. Donc, est-ce que ça n'est pas un effet, justement, direct des modes de changement par référendum ou initiative populaire, que le statut des constitutions a changé de nature, dans les États, en tout cas, où ces procédures existent? Parce que si on compare la Constitution, vous preniez l'exemple de l'Alabama ou encore plus l'exemple de la Californie, si on compare avec la Constitution du Massachusetts, la Constitution du Massachusetts n'est pas du tout aussi grosse. Elle est plus limitée. Alors comment vous analysez cette question de l'écart qui a été croissant? On va revenir après sur les différences entre les États, mais sur l'écart croissant qu'il y a eu entre l'organisation normative de la politique aux États-Unis au niveau fédéral et son organisation au niveau des États, en tout cas qui pratiquent ces différentes modalités d'intervention populaire.
Oui.
Appuyez sur le bouton vert. Non, en bas.
Pardon. Vous avez raison, il y a une... scission, il y a une rupture entre les constitutions d'État et la constitution fédérale. Cette scission, elle est le produit de l'histoire, comme vous l'avez dit. Il y avait d'abord les États, les articles de la Confédération en 1781 formaient une espèce de, non pas une, un État fédéral, mais une espèce de, d'association assez lâche d'États souverains, une confédération d'États, dirait-on aujourd'hui. Les États ont existé avant la Confédération et ils ont décidé de se mettre ensemble en 1787 avec la Constitution fédérale, mais toujours dans la perspective de ne donner au pouvoir, au gouvernement fédéral, au sens large, pas seulement l'exécutif, à l'État fédéral, que des compétences limitées. C'est la base du fédéralisme. Les États sont quand même très forts encore, même si, en plus de deux siècles, l'Union, c'est sans révision constitutionnelle, par le biais de l'interprétation jurisprudentielle de la Cour suprême, s'est arrogé toujours plus de compétences et de domaines où ils peuvent intervenir. Mais toujours est-il qu'en matière d'organisation de l'État, des États américains et de la Confédération, il n'y a pratiquement pas de conditions posées par la Constitution fédérale. Republican form of government, c'est la seule chose qui est exigée, c'est que ça doit, la forme de l'État doit être une république. Mais à part ça, d'ailleurs, la question s'est posée dans les années 20 et il y avait bien des tentatives où on a voulu faire dire à la Cour suprême des États-Unis que la démocratie directe des États n'était pas une forme républicaine du gouvernement pour interdire en quelque sorte l'initiative et le référendum par le biais de cette clause de l'article 4 de la Constitution. Ça n'a pas réussi, la Cour suprême a dit c'est l'affaire des États, c'est la souveraineté des États. Mais vous avez raison, la différence est énorme. Entre ces constitutions monstrueuses en termes quantitatifs, en termes de style, et que sont les constitutions d'État, et la constitution américaine, simple, svelte, concise. Donc vous avez une obésité d'un côté et un grand sportif de l'autre côté. C'est assez étonnant. La constitution américaine, comme vous l'avez dit, ne peut pratiquement pas être modifiée. C'est pratiquement impossible. Et la deuxième rupture, c'est pas seulement en termes de style et de quantité, en termes de démocratie, comme vous l'avez mentionné, effectivement, les constitutions d'État ont tous des éléments démocratiques très forts. Au niveau fédéral, le seul élément démocratique, c'est l'élection du président, et encore, ce n'est pas une élection directe, mais c'est une élection indirecte, formellement. Et puis, deuxièmement, l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat, qui sont les seules compétences du corps électoral fédéral aux États-Unis. Donc, c'est une démocratie purement représentative. Et n'oubliez pas que les États-Unis, les Américains, ont à l'égard de leur Constitution une vénération qui est tout près de l'adoration religieuse. La Constitution, c'est la Bible. Quand vous invoquez la Constitution, vous vous référez à une valeur, la forme, force idéologique de la Constitution aux États-Unis est énorme. En France aussi, il y a un petit peu ça, et dans tous les États, mais aux États-Unis, ça prend vraiment des proportions extraordinaires, tandis que la Constitution d'État, non, c'est un document comme un autre, on le modifie très fréquemment, elle n'a pas la même valeur symbolique, la même valeur sentimentale que la Constitution des États-Unis.
Oui, puis la valeur sentimentale tient au fait que c'est supposé être l'esprit des pères fondateurs, que c'est donc, se joue quelque chose de l'identité américaine dans la Constitution, qui n'est pas simplement un ensemble de dispositifs institutionnels, mais qui est le résumé de l'aventure américaine, de l'esprit américain.
Oui, c'est tout à fait caractéristique, et c'est peut-être bien parce que la Constitution américaine fédérale est pratiquement irrévisible, qu'elle jouit cette valeur sentimentale extraordinaire. C'est comme si elle avait été posée par Dieu en personne. Les Founding Fathers, ce sont des demi-dieux, d'ailleurs, il y a des termes qui sont utilisés dans la doctrine américaine. Cette assemblée de demi-dieux de Philadelphie, qui en été 1787, a pondu, en violation du mandat qu'ils ont reçu, n'oublions pas, ils n'avaient pas le droit de créer un État fédéral. Ils avaient le droit de réviser, ils avaient la charge de réviser les articles de la Confédération, le traité qui unissait les 13 colonies de l'époque. Et ils ont dit non, on passe outre. Et ils ont fait quelque chose que les Européens n'ont pas réussi avec M. Giscard d'Estaing il y a une dizaine d'années, à faire le... Pardon, oui, j'ai oublié que je suis... Les pères fondateurs en 1787... était chargé de réviser le traité qui fondait la Confédération des États américains de l'époque. Ils se sont dit, non, nous passons outre ce mandat et nous acceptons que cette constitution que nous élaborons entre en vigueur au moment où 7 États l'approuvent, 7 sur 13. Donc la règle de l'unanimité qui existait aussi dans toute confédération d'États a été brisée, c'était une violation, et ça marchait, et 7 États ont accepté, et les États qui avaient dit non ont joué le jeu et ont participé. C'est ce que, le parallèle que j'essaie de faire.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi c'est la dimension révolutionnaire du pouvoir constituant. Oui. En France aussi, l'Assemblée nationale s'est constituée en violation du mandat des personnes qui avaient été élues pour les États généraux. Ça, c'est la définition d'une révolution. C'est le pouvoir créateur sans forme, comme disait Sieyès. Une question me taraude, et vous avez sûrement des éléments de réponse. C'est que à partir de 1900, et l'Oregon a été un des premiers États pionniers dans cette direction-là, se sont développés dans les États de l'Ouest tout l'ensemble de ces procédures dont vous avez parlé. Elles ne se sont pas développées dans les États d'origine, les États du centre, mais plus encore dans les États de l'Est. Comment expliquez-vous le fait que beaucoup des États de l'Est sont des États qui sont des États démocrates politiquement? Or, ces États démocrates n'ont pas adopté les méthodes démocratiques, si je puis dire, des États de l'Ouest, dont certains sont très franchement et historiquement républicains. Quelle est l'explication que l'on peut donner? On peut expliquer pourquoi ça commençait par l'Ouest, parce que la corruption politique était beaucoup plus forte dans les États de l'Ouest, parce que les bosses jouaient un rôle local lié à la corruption, lié à la manipulation politique. La politique était moins encadrée et organisée, moins régularisée certainement qu'à l'Est. Donc on peut comprendre pourquoi le mouvement a commencé à l'Ouest. Mais pourquoi ensuite il n'y a pas eu de diffusion de ces procédures, enfin en tout cas au niveau où elles existent à l'Ouest, il y a des éléments, à l'Est, alors même qu'il s'agit d'États essentiellement démocrates?
Peut-être parce que c'était des États démocrates, alors que les autres ne l'étaient pas. Je n'ai pas la réponse absolue à cette question. D'ailleurs, elle n'est pas absolue non plus, parce que dans tous les États, sauf le Delaware, encore une fois, il y a l'élément direct démocratique pour la révision de la Constitution. Ça existe.
Mais pas pour, disons, les référendums d'initiative populaire n'existent pas dans ces États-là.
Il existe dans certains États, mais souvent, le plus souvent, alors de façon indirecte. C'est la forme indirecte, l'initiative, qui, par exemple, le Massachusetts. Donc le Parlement garde quand même plus de pouvoir, il ne se fait pas contourner complètement, il a son mot à dire, mais ces instruments existent, mais de façon moins intense, et surtout, ces instruments sont moins utilisés. Encore aujourd'hui, dans les États de l'Est que par rapport aux États du Nord et de l'Ouest. Et
comment vous l'expliquez? Est-ce que ça tient au fait que la démocratie, je dirais, l'espace public est plus organisé, donc l'information, la vie civique est plus riche à l'Est qu'à l'Ouest? Quel lien peut-on faire entre ce moindre usage de ces pratiques et la structure de l'espace public?
Est-ce qu'il n'y a pas dans votre question un relan d'État unitaire qui est précisément absent aux États-Unis? Quand vous avez un État fédéral, vous donnez des souverainetés, une autonomie, quel que soit le nom que vous lui donniez, importante aux entités centrales que sont les États. Et alors, si les États sont souverains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'accepter tous les mêmes institutions. Si vous voulez mettre fin à la diversité, il ne faut pas opter pour un régime fédéral. Donc, ce n'est pas tout à fait normal que ces institutions d'organisation ne soient pas reçues de la même façon. Et puis, les pratiques, les gens s'habituent. Une fois qu'on a ces instruments, comme c'est le cas à l'Ouest, alors on a senti que l'utilité, et dans le débat politique, c'est très présent, tandis que dans les autres États, peut-être le besoin n'est pas...
Donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas plus parler, comme Tocqueville, au singulier de la démocratie américaine, parce qu'on peut dire qu'il y a des modèles démocratiques entre États qui sont à ce moment-là, assez profondément différents.
Tout à fait.
Très profondément différents, beaucoup plus différents qu'entre les États européens. Il y a une marche entre l'Oregon, la Californie et, disons, la Virginie, par exemple. Il y a une très grande différence.
Oui, c'est possible. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est vraiment la diversité plus grande qu'elle ne l'est dans les États de l'Union européenne?
Je mets à part la Suisse, évidemment.
Non, je ne parle pas de la Suisse non plus. Je ne parle pas de la Suisse non plus, mais il existe quand même beaucoup d'États européens qui ont des styles de démocratie fort différents entre les différents États de l'Union européenne. Mais oui, vous avez raison, il n'existe pas un modèle de démocratie directe dans tous les États américains, si on fait exception des éléments de base qui sont l'élection des deux chambres au Parlement et l'élection du gouverneur, etc. Mais par ça, en termes d'éléments et de densité et de pratique de la démocratie directe, il y a des divergences énormes. Et c'est très bien. Ça ne correspond pas aux sensibilités des gens, ça ne correspond pas à un besoin. Et encore une fois, dans un État unitaire, il est normal, dans un État fédéral, il est normal que les différentes entités adoptent des réglementations différentes en termes de fiscalité, en termes d'organisation de l'État, en termes d'organisation des écoles. Et dans tous les domaines où ils sont compétents, ce n'est pas la même chose.
Dans tous les domaines, ça, on peut bien le comprendre, mais là, effectivement, où la limite joue, c'est quand ce sont les questions de droit qui sont en cause. Les droits de l'individu. Même, il y a des conventions internationales qui considèrent comme contraires aux droits de l'homme la peine de mort. Donc, dans ces cas-là, les Américains n'appliquent pas, je dirais, ce droit international. Alors que maintenant, en Europe, ce serait très difficile de le faire admettre. Mais en revanche, sur les sujets que vous avez cités de société, là, il y a tout de même une forme de régulation par national, fédéral des droits. Même si, effectivement, le mystère, c'est la Cour suprême. C'est les moments où la Cour suprême accepte de parler, elle a accepté de parler fameusement sur l'avortement. La Cour suprême s'est prononcée sur l'avortement, et elle s'est prononcée sur l'avortement parce qu'à ce moment-là, le Sénat et la Chambre des représentants considéraient le sujet comme trop conflictuel pour eux-mêmes prendre la décision. Donc on peut dire que c'est la démission du législateur qui a consacré le rôle de la Cour suprême. Or, aujourd'hui, sur le mariage entre personnes de même sexe, c'est le contraire. La Cour suprême ne veut pas s'engager et donc crée une situation d'un point de vue juridique qui est très délicat parce que c'est l'interprétation de personnes inférieures à la Cour suprême dans l'ordre normatif qui finissent par imposer le jugement juridique. Donc c'est unique que la hiérarchie normative est volontairement prise à revers dans ce cas-là.
Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, strictement parlant, entre la Cour suprême des États.
Parlez plus.
Entre la Cour suprême des États et la Cour suprême de Washington, sauf sur les questions d'interprétation du droit fédéral. Mais dès qu'une Cour d'État dit « notre article d'égalité dans la Constitution californienne a un sens différent de celui que lui donne la Cour suprême des États-Unis », la Cour suprême des États-Unis ne peut plus intervenir. C'est ça le fédéralisme judiciaire. Donc il n'y a pas de hiérarchie directe. Il y a un exemple très célèbre. La Cour suprême a dit que, toujours en matière de pratique d'initiative populaire, que la récolte de signatures dans les malls, dans les shopping centers, dans les centres commerciaux qui sont des propriétés privées, peut être interdit par le propriétaire. Le propriétaire peut dire non, vous n'avez pas le droit de récolter des signatures propriétés privées contre démocratie directe. La Cour suprême a dit oui, la propriété privée l'emporte. Les cours suprêmes, dans différents États, ont dit non, la démocratie directe l'emporte et le propriétaire est obligé d'accepter que les gens récoltent des signatures dans son domaine, même s'il n'est pas d'accord avec le contenu de cette initiative. Vous voyez, la même question, les mêmes droits peuvent être jugés différemment et c'est ça le fédéralisme judiciaire, c'est des possibilités d'avoir des réglementations différentes, y compris en termes d'organisation démocratique, y compris en termes de droits fondamentaux entre les différents États.
Mais à ce moment-là, ça veut dire que les États-Unis deviennent ce pluralisme des droits fondamentaux. Si on va vers un pluralisme des droits fondamentaux aux États-Unis, c'est qu'il n'y a plus de droits fondamentaux. Parce que le propre des droits fondamentaux, c'est de ne pas être pluraliste. C'est d'être des droits pour tout le monde. Donc là, il y a une espèce d'imprécision, je dirais, du système juridique américain. Bien sûr, quand on discute est-ce que le cannabis peut être fumé dans un État, là, je dirais, aucune question ne se pose. Ou les référendums des années 70 sur le fluor que l'on mettait dans l'eau potable, ça ne pose aucun problème. Alors qu'il y a tout de même un certain nombre de domaines dans lesquels on peut considérer, c'est une discussion, on peut considérer que les droits fondamentaux sont impliqués. Donc le paradoxe serait à ce moment-là que les États-Unis seraient le pays dont l'organisation politique revient à nier le fait qu'il y ait des droits fondamentaux.
Je me permets de ne pas être d'accord avec cette proposition.
C'est un peu fait pour ça.
Et de dire au contraire, cette diversité, y compris en termes d'interprétation des droits fondamentaux, est la preuve d'une richesse extraordinaire en matière de droits fondamentaux. Pourquoi ? Le droit fondamental, ce n'est pas un droit absolu. La liberté de religion est une chose, la liberté d'expression est une autre. Mais quand est-ce qu'une restriction est admissible et quand elle ne l'est pas ? Ça, c'est une décision que le juge ne peut prendre que de cas en cas. Et il est très bon que l'on voit que des juges, qui sont des êtres humains comme vous et moi, peuvent être d'un avis différent. Et si un tribunal, un cour arrive à la conclusion que, effectivement, le mariage pour tous est une base constitutionnelle commandée par le principe d'égalité et du process of law, et une autre cour dit non, c'est une question qui relève de choix de chaque personne, c'est à mon avis pas négatif. Les droits fondamentaux, c'est une question très délicate. Et il ne faut pas croire que si un tribunal décide que tout le monde doit être d'accord, c'est des choses qui sont discutables, c'est des pesées d'intérêts, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle arrive parfois à faire des jugements contre des États, y compris souvent contre la Suisse. La Suisse se fait condamner 10 fois par an à peu près par la Cour européenne des droits de l'homme, on est pas mal.
Et la France aussi.
Je sais. Et on peut discuter. On dit, elle a raison, elle n'a pas raison. La discussion continue. L'essentiel, ce n'est pas de dire qui a le dernier mot. L'essentiel, c'est de dire personne n'a le dernier mot. Le débat continue. On continue de jouer. Il y a des étapes qui sont franchies. Et en termes, y compris, et ça, c'est ce que nous apprenons, en termes de droits fondamentaux avec la démocratie directe aux États-Unis, c'est qu'un juge arrive à une conclusion pour une loi. Ah ben, on contredit ce juge par une initiative populaire. Le juge prend encore ensuite cette initiative en main et essaye un peu d'arranger les choses. Mais c'est un débat continu. Et c'est ça que je trouve, en termes démocratiques, extrêmement important. Qui a le dernier mot, qui a le premier mot, ce ne sont que des étapes. Et vous savez que, y compris, je crois, dans tous les États où il y a une juridiction constitutionnelle très développée, ce qui en France maintenant est le cas depuis une dizaine d'années, y compris pour des lois antérieures, le débat, la discussion ne s'arrête pas nécessairement avec la décision du Conseil constitutionnel qui est X, mais il continue d'une autre façon et c'est très bon.
Mais vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que des droits fondamentaux sont inséparables d'une réflexion permanente sur leur contenu. Mais il est vrai aussi qu'au niveau international, une chose remarquable, c'est le développement de ce qu'on appelait la conversation des juges, c'est-à-dire le fait qu'il y a une intégration croissante dans la réflexion internationale, dans chaque pays, des réflexions et des décisions des autres pays. Il y a un enrichissement juridique qui fait que parfois des magistrats de la Cour suprême américaine, ce qui est très neuf, ont cité des déclarations de droits de l'homme français, ou qu'au contraire, des juges français vont s'enrichir d'une jurisprudence américaine ou allemande. Et là, on a l'impression que il y a plus de cloisonnement, je dirais, dans la discussion américaine sur ce plan-là, non ?
Non. Alors, les tribunaux, y compris d'État, se réfèrent souvent à des pratiques judiciaires d'autres États ou évidemment, lorsque la Cour suprême s'est prononcée sur la question, ce qui est assez rare, elles intègrent. Donc, ils ne sont pas seulement à l'intérieur de leurs frontières, ils ne regardent pas ce que les tribunaux ont décidé dans les autres États. Il y a une interpénétration, alors beaucoup plus forte, je dirais, aux États-Unis. Simplement, ils peuvent avoir une pratique différente. Par exemple, un État dit, la Floride, dit que la question d'unité de la matière, nous l'examinons, y compris après le vote. On a voté sur un sujet, s'il s'avère que les électeurs ont été appelés à voter sur deux idées qui n'avaient aucun rapport, nous pouvons annuler cette question même après le vote. D'autres États en Californie disent non, nous, on examine ça seulement avant le vote. Une fois que le vote a eu lieu, on ne peut pas revenir là-dessus. Vous voyez, donc, ils ont des pratiques différentes et c'est la common law. La jurisprudence est une source du droit première. Et ça s'est resté aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne et dans tous les pays anglo-saxons, beaucoup plus encore, et pas seulement sur les questions des droits de l'homme, mais sur toutes les questions d'interprétation. Donc, ils sont habitués à se référer à des précédents, à des décisions d'autres tribunaux, même s'ils ne sont pas directement hiérarchiquement impliqués dans une relation de hiérarchie.
Merci. Il y a un point que nous n'avons pas abordé et que j'aimerais bien que vous puissiez aborder. C'est que là, nous avons fait la distinction entre le niveau fédéral et le niveau des États, mais beaucoup d'initiatives concernent également des questions qui sont des questions municipales, disons, aux États-Unis. Dans le jour de l'Election Day, le bulletin de vote qui fait souvent en Californie 400 pages, disons, à peu près, hein, c'est un vrai catalogue de la redoute, et il y a bien des éléments d'initiative ou de référendum qui ne sont pas au niveau de l'État, mais aussi au niveau municipal. Donc là, c'est une chose que vous n'avez pas abordée. Est-ce que vous pourriez dire deux mots sur ce fait que la pratique référendaire aux États-Unis, elle s'applique au niveau des États, mais aussi à des niveaux très intermédiaires, que ce soit des comtés, que ce soit des municipalités. On va très loin dans la pratique référendaire et donc on va très loin dans le détail des objets qui peuvent faire matière à un vote populaire.
Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, la démocratie directe locale a été un des facteurs qui ont contribué à l'institutionnalisation de la démocratie directe au niveau étatique. C'est tout d'abord dans les comtés, dans les municipalités, que se sont développés ces instruments-là. San Francisco a, comme première municipalité, reconnu l'initiative et le référendum à la Suisse en 1898, donc 12 ans avant qu'au niveau étatique, ces institutions aient été reconnues. Et souvent, ça remonte à la pratique qu'avaient ces États avant qu'on parle d'initiative, ces « local option laws ». On adoptait une loi, le Parlement adoptait une loi au niveau de l'État, mais comme il sentait que les sensibilités étaient différentes entre les différentes municipalités, il réservait la possibilité pour les communes ou pour les comtés de faire un choix entre deux solutions. En matière de prohibition, par exemple, c'était assez fréquent. De sorte qu'on a ouvert la porte à une démocratie locale pour choisir entre deux ou trois options que le législateur leur a, en quelque sorte, mis à disposition. Et peu à peu, ensuite, ces instruments sont effectivement entrés au niveau local et sont pratiqués avec une intensité extraordinaire. Alors, imaginez qu'il est déjà pratiquement impossible de faire un exposé complet de la démocratie directe au niveau des États, mais si vous descendez au niveau des localités, municipalités, comtés, personne ne sait, je prétends, sur quoi on vote un jour X au mois de novembre, dans tous les États, dans toutes les municipalités, c'est pratiquement impossible à trouver. Même avec les ordinateurs, même le site web que je vous ai indiqué, au niveau local, ils disent pratiquement rien.
Il faut rappeler que sur un bulletin de vote américain, il est fréquent d'avoir 50 ou 60 choix à faire le même jour. Nous, on voit le bulletin de vote, en tout cas en France, on vote pour une liste ou on vote pour une personne. Aux États-Unis, on vote 60 fois, en fait, souvent, et même parfois plus, ce dont on n'a pas forcément le sentiment physique ici. Je ne voudrais pas que l'on termine sans profiter du fait que vous n'êtes pas simplement un spécialiste des États-Unis, mais aussi un professeur de droit constitutionnel suisse, et que il y a eu en 2013 une votation sur l'initiative de l'UDC pour modifier les conditions de nomination du Conseil fédéral. Alors, cette initiative a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça n'est pas la première fois qu'il y avait une votation sur le sujet, puisque, si j'ai bonne mémoire, il y avait eu un projet en 1900, il y avait eu aussi un autre projet en 1942. Donc, on voit que la même question revient à plusieurs fois. Donc, ma première question à ce propos-là serait de dire comment vous voyez cette question du référendum, du rythme de retour sur une même question. On ne pourrait pas imaginer qu'on fasse un référendum tous les 6 mois. Là, cet exemple était tout de même tous les 40 ans, tous les 50 ans. Comment vous voyez cette question-là? Et deuxièmement, comment vous expliquez le fait que le pays qui se signale par l'attention est portée au mécanisme de la démocratie directe, et on peut dire l'attachement extrêmement fort au mécanisme de la démocratie directe, ne joue pas en matière de personnalisation de la démocratie, d'une certaine façon. C'est que la Suisse est paradoxalement le pays où la démocratie directe joue le rôle le plus grand, mais le pays qui semble aussi le plus attaché à certaines formes de gouvernement représentatif classique. Comment analysez-vous ce lien qui mérite d'être compris, en tout cas? Moi, je n'ai pas de réponse, mais vous l'avez sûrement.
Oui, mais, monsieur Rosenvallon, on a 10 minutes, 7 minutes à disposition. Moi, il me faudrait 2 heures à peu près pour venir à bout de votre question. C'est là. Alors, la première question. Le peuple a décidé une chose. Comment ça se fait-il que quelques années après, on lui pose la même question? À la différence des États-Unis, où il y a une valeur supérieure des décisions populaires, on peut remettre en question la décision du peuple. Plusieurs fois, nous nous sommes prononcés en Suisse à plusieurs reprises sur un objet. Ça n'a pas marché 2 fois, et la 3e fois, ça marchait. Par exemple, le suffrage féminin. Le suffrage féminin, la première fois que la question était posée au niveau fédéral, c'était dans les années, en même temps que les parlements européens ont décidé de l'introduction de suffrage féminin dans ces États, ben, ça a été non. Et ça, il fallait attendre 1971 pour qu'une majorité d'hommes soit d'accord dans l'isoloir où ils sont tout seuls de mettre un vote positif à l'idée du suffrage féminin. Donc c'est tout à fait normal que l'on puisse revenir, à la charge. Et en matière d'élection populaire du Conseil fédéral, c'est vrai que vous avez raison, c'est la 3e fois que l'an dernier qu'on s'est prononcé sur cette question. Enfin, je n'étais pas là en 1942, je n'étais pas là en 1900, mais c'est la 3e fois que le peuple a dit non. Ça n'a rien d'extraordinaire. Maintenant, la 2e question. Comment se fait-il que la Suisse, phare de la démocratie directe, si vous me permettez, que les Suisses n'ont rien à dire sur la question de savoir qui les gouverne? Les membres du Conseil fédéral, les 7 membres du Conseil fédéral, ne sont pas élus par le peuple, ils sont élus par l'Assemblée fédérale, par le Parlement. Et ils ne sont pas élus en bloc, ils ne sont pas élus comme une équipe. C'est une élection individuelle de 7 membres. On commence par celui qui est... Et comment se fait-il que non seulement ils ne sont pas élus par le peuple, mais qu'ils peuvent rester au pouvoir aussi longtemps qu'ils veulent? Il m'est arrivé de donner des cours dans les pays africains, et je me suis toujours amusé de dire, écoutez, la limitation des mandats, c'est une règle élémentaire de toute démocratie. J'ai pu dire ça sans rougir, mais dans mon pays, les conseillers fédéraux restent autant qu'ils veulent. Bien sûr, ils doivent être confirmés tous les 4 ans, mais ils le sont, généralement à quelques exceptions près. Et je décide moi-même, si je suis membre du Conseil fédéral, même en cours de mandat, je peux dire en février prochain, je me retire. Pas. C'est un anachronisme que personnellement, je me suis toujours engagé pour qu'on introduise le vote, l'élection populaire du Conseil fédéral. Mais vous voyez, je n'ai pas été suivi par la majorité des électeurs, et loin de là.
Eh ben oui, puisque c'est à 75%.
Oui, oui, oui.
C'est très rare que dans les votations suisses, il y ait des réponses aussi fortes que ça, 75%.
Oui. Ah non, ça n'avait aucune chance. Ah ben, la raison est que la composition du Conseil fédéral, c'est une alchimie compliqué entre partis politiques, sexe, confession, âge et provenance régionale. Le Parlement adore ce jeu. Ce jeu des faiseurs de rois. La nuit des longs couteaux et les magouilles qui se passent dans les palais fédéraux avant les élections du Conseil fédéral, c'est extraordinaire. Mais vous avez touché un point assez important. La démocratie directe en Suisse fait qu'on s'intéresse peu aux personnes. Il n'est pas personnalisé. Même aujourd'hui, avec cet UDC qui est très dominé par un personnage politique, qui est très connu, à peu près comme d'autres personnes à l'étranger, sans mentionner des noms, mais on aime discuter projet, objet, loi, on n'aime pas discuter personne. Et puis si une personne dépasse, et de loin, le niveau, on n'aime pas. Ce n'est pas très apprécié que les personnes se mettent en avant. C'est sans doute une conséquence de deux facteurs. L'État, en Suisse, n'est pas une entité qui se greffe sur la société. Nous avons toujours une conception d'un État populaire. Nous n'avons jamais eu l'aristocratie, nous n'avons jamais eu, sauf dans les villes, nous n'avons jamais eu de Obrigkeitsstaat, comme disent les Allemands, donc un État des classes supérieures qui agit sur le peuple. Moi, personnellement, l'État, pour moi, en Suisse, j'en fais partie. Je me sens concerné, parce que je sais que j'ai mon mot à dire. Donc on a une conception de l'État très différente de celle de la France, où l'État, avec toute la puissance de l'État, que ce soit la gauche ou la droite, s'affirme toujours pour manifester ses décisions. En Suisse, non, l'État est discret. Et j'ai toujours dit, un État fort peut être discret, et un État qui donne des signes extérieurs de pouvoir est peut-être un État plus faible qu'un État qui peut être relativement discret. Et ça, c'est le résultat de la démocratie directe. Je sais que j'ai quelque chose à dire. Je ne gagne pas toujours, loin de là. Mais je sais que de temps en temps, je gagne, de temps en temps, je perds, mais je peux participer. Et la décision populaire est légitime. Si le gouvernement actuel en France adopte une loi, M. Hollande dit le matin qu'il veut une loi, l'après-midi, l'Assemblée fédérale la vote pratiquement. Il n'y a pas de surprise. Ils ont la majorité, ça passe. Il y a les manifestations de rue qui, parfois, essayent un petit peu de faire de l'opposition. Mais la légitimité n'est pas très grande. Si le gouvernement change, le prochain gouvernement va probablement revenir en arrière et changer les lois. Quand une loi a été votée par le peuple, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on est obligé d'accepter. Et pourquoi ? Parce que le peuple est une instance tout à fait particulière. Et on se rend, pour les politologues, je trouve que c'est extrêmement important. D'abord, qui c'est le peuple ? C'est les électeurs, d'accord, juridiquement, ceux qui ont le droit de vote. Mais qui c'est qui a pris la décision là, du 9 février où on a dit non à la libre circulation des personnes, en violation d'un traité qu'on a conclu, avec, y compris la France, avec l'Union européenne à la fin des années 90. Qui c'est qui a voté ? 1 400 000 électeurs, on ne sait pas qui, secret de vote, personne n'est responsable. En démocratie directe, personne n'est responsable. Le peuple n'est pas responsable des décisions qu'il prend. Un Parlement est responsable. Si un Parlement prend une décision et les gens ne sont pas d'accord, ben ils changent les députés. On ne peut pas changer de peuple, comme disait Brecht dans un essai très, très célèbre. Et c'est parce que le peuple, par définition, ne peut pas être pris comme responsable pour les décisions qu'il prend que ces décisions sont considérées comme légitimes. Tout le monde accepte. Maintenant, on est dans une situation vraiment très difficile avec cette décision du 9 février. Le peuple suisse avait accepté à plusieurs reprises les accords bilatéraux, qu'on les appelle, y compris le principe de la libre circulation des personnes. Nous sommes d'ailleurs le seul à avoir voté sur l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie, à la Bulgarie, etc. Dans aucun État on a voté. En Suisse, oui. On a voté là-dessus, on a accepté. Et maintenant, on revient en arrière. Le peuple a accepté, a dit, non, maintenant, c'est contingent et limitation, plafond maximum d'étrangers, libre circulation des personnes. Ça nous met dans une situation extrêmement difficile. Mais le gouvernement est obligé d'essayer de renégocier. Et nous sommes dans un processus assez délicat, je dois dire, en raison de la démocratie directe, qui a remis en cause, le peuple a dit oui d'abord la libre circulation, et maintenant il dit non. Pour nos partenaires, je comprends que ce n'est pas très agréable si vous faites un contrat avec une personne et puis l'autre personne dit non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ça.
Mais là, vous
soulevez... C'est délicat.
vous soulevez une question vraiment très intéressante et on peut la livrer à l'auditoire, mais nous ne pouvons pas la traiter maintenant, c'est qu'effectivement, la démocratie présuppose un sujet par définition irresponsable, parce qu'il est la collectivité. Et de même que la volonté générale ne peut être mise en cause, le sujet de la volonté générale est irresponsable par structure. Mais en même temps, la démocratie a besoin de trouver des formes d'imputation, tout de même des actions, de responsabilité. D'où ce fait que l'essence de la démocratie est l'irresponsabilité, mais l'essence de la légitimité est aussi l'exercice de la responsabilité, qui va de pair avec la personnalisation du pouvoir. D'où cette tension entre la démocratie qui veut plus de personnalisation du pouvoir qu'à la personnalisation du pouvoir et la condition de la mise en œuvre de la responsabilité, et la démocratie qui, dans sa structure, veut mettre en place le pouvoir absolument impersonnel, justement, de la collectivité sur elle-même, de la volonté générale. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir aidés à méditer sur toutes ces questions-là. C'était passionnant.